Les personnes qui militent pour la Palestine sont toutes très différentes. Elles sont jeunes ou âgées, il y a des hommes et des femmes, il y a ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas, il y a celles qui sont engagées pour des raisons humaines, humanitaires, et qui s'engagent contre la souffrance du peuple palestinien. Il y a des infirmières pour Gaza actuellement. Il y a ceux qui s'engagent par rapport au droit international, ce droit qui est issu des effroyables conflits du XXe siècle et qui a créé des grands organismes tels l'ONU et la Cour pénale internationale, et qui pensent que par les luttes, on peut leur donner un véritable pouvoir. Il y a les militants culturels qui admirent la création palestinienne, qu'elle soit réalisée à Gaza, en Cisjordanie ou à Jérusalem, ou qu'elle soit réalisée par des Palestiniens en exil, et qui pensent que cette création palestinienne doit être soutenue et valorisée. Il y a ceux qui prônent le boycott, à l'instar du boycott qui avait eu lieu au moment de l'apartheid en Afrique du Sud. Il y a les militants antimilitaristes, ceux qui pensent qu'aujourd'hui, à notre époque, les ventes d'armes et les armes doivent être supprimées. Et puis, il y a les militants économiques, qui pensent qu'il faut faire vivre la production palestinienne. Et il y a aussi des militants différents, il y en a qui allient plusieurs motivations. Et il y a un militant, qui est un militant pour la Palestine et qui est un marin. Et c'est Philippe, c'est lui qui anime l'émission Une heure en Palestine aujourd'hui. Bravo Philippe, belle émission.
Oui, bravo à toi, surtout chère Claire Britain, pour ce lancement d'Une heure en Palestine un petit peu particulier, avec toujours le fameux générique Bint al-Shalbaya, mais cette fois interprété par le grand musicien libanais Marcel Khalifa, avec le Kiev National Orchestra, et c'était lors d'un concert à l'Andalous enregistré en 2002. La voix de Claire Britain est donc une voix qui compte pour cette émission. Et même si elle ne réside plus à Marseille, elle continue d'œuvrer à distance depuis sa retraite en Aveyron. Alors vu que nous sommes à Radio Galère 88.4, au studio de la Friche de la Belle de Mai à Marseille, toujours avec Sidi, je dois commencer cette émission en rendant hommage à Monsieur Étienne Bastide. Étienne, un grand homme de radio qui a consacré les 40 dernières années de sa vie pour faire vivre Radio Galère, dont il fut l'un des co-créateurs. Et malheureusement, Étienne nous a quittés au tout début de ce mois de septembre. Claire a précisé que j'interviens dans cette émission en tant que marin, mais aussi en tant qu'éducateur. Et c'est bien avant de me préoccuper de Palestine que j'ai rencontré Étienne Bastide, au début des années 2000, quand il était omniprésent avec des palanquées de stagiaires qu'il a formés, munis de micros et de caméras, dans les merveilleux dispositifs pédagogiques d'éducation aux écosystèmes marins, mer en fait, que l'océanographe corse Jean-Valère Géronime organisait à bord des ferries de l'ex-SNCM. Jean-Valère et Étienne Bastide étaient aussi des chevilles ouvrières, des médéducs, destinés cette fois aux adultes, qui œuvraient pour les écosystèmes marins et bien sûr humains tout autour de la Méditerranée, que ce soit en Provence, donc en Corse, au Maroc, principalement à Tanger, en Algérie, surtout à Boumerdès, en Tunisie, avec tous les artistes de Zarziz, au Liban, à Beyrouth, etc. Donc merci infiniment Étienne pour tout ce que tu as semé et diffusé, en rarement à contre-courant, comme le précise la devise de Radio Galère. Un hommage sera organisé pour toi Étienne pendant ce mois d'octobre. Et donc nous sommes maintenant dans Une heure en Palestine, et en tant que marin, je développe depuis 4 ans, humblement, le projet qui s'appelle Route du Zaatar, qui consiste, selon les saisons, à transporter à la voile, sur des routes maritimes, ou en camion sur des routes terrestres, des très bons produits méditerranéens, et en particulier palestiniens, entre la rive nord de la Méditerranée et, pour l'instant, la Corse, la Sardaigne et les côtes ligures. Parfois, des stands de la route du Zaatar sont installés dans des marchés officiels, comme ceux de Sanary-sur-Mer ou de la Ciotat, ou des marchés alternatifs, comme autrefois à Talasanté, et comme tous les premiers dimanches de chaque mois, à la Cité des Arts de la Rue, aux Égalades. Les stands de la route du Zaatar donc proposent à la dégustation et à la vente des produits de la mer, comme les conserves de Marius Sardineur, ou bientôt les magnifiques pots de Timon et Sourieux, les fameux pâtés de la saucisse de Marseille. Eh oui, on a aussi des pâtés de la saucisse à Marseille. Des fromages ou des fruits secs, ou des miels du maquis corse, des produits italiens de l'Ufficina de Lucas Pinabella, et surtout donc les produits palestiniens, importés et distribués depuis plus de 25 ans par la petite entreprise basée en Aveyron, près de Rodez, qui a créé le site internet donc fipsouk.fr, FIP pas comme une autre radio, hein, mais FIP comme France Import Palestine. Et donc fipsouk.fr œuvre sans relâche pour faire connaître et apprécier les créations alimentaires, artisanales et culturelles de toutes sortes en provenance de Cisjordanie plus particulièrement. Et avec aussi l'association Le Philistin qui organise les années impaires autour du 15 août, un merveilleux festival en Palestine, en campagne. Alors d'ailleurs, nous devrions avoir au téléphone, alors en fin d'émission, le fameux Jean-Marie Dansette, alias Djema le Philistin, créateur de Fipsouk avec toute sa famille. En attendant, les prochains stands route du Zaatar seront installés ce samedi 5 octobre sur la Canebière pour l'arrivée à Marseille du Tour Alternativa 2024. Parmi les artistes qui chanteront pendant ces deux jours, il y aura le très charismatique Kadour, alias HK, qui se produira au Square Léon Blum ce vendredi 4 octobre à 19h30. Et je voudrais à cette occasion que l'on écoute la très belle mise en musique du dernier poème que le Gazaoui Rifat Al-Arir, poète et professeur de littérature, a écrit le 1er novembre 2023. Ce 1er novembre, donc. Il savait que lui-même et sa famille étaient en péril. Et effectivement, Rifat et sa famille font partie des innombrables civils innocents qui sont morts sous les bombes de l'armée d'Israël qui crache le feu depuis plus d'un an. Certaines de ces bombes sont censées être destinées à des terroristes du Hamas, mais la plupart exterminent des civils par dizaines de milieux, depuis ce 7 octobre bien sûr, mais en fait depuis des décennies, depuis que cette abominable et désespérante guerre de colonisation a commencé avec la Nakba en 1948. Mais les Palestiniens en général, et les Gazaouis en particulier, ont appris à ne pas désespérer. Alors on écoute ce poème de Rifat Al-Arir, mis en musique donc par HK.
S'il est écrit quelque part que je dois mourir, il vous appartiendra de vivre pour raconter mon histoire, pour vendre ces choses qui m'appartiennent et acheter une étoffe et des ficelles. Faites en sorte qu'elle soit bien blanche, avec une longue traîne, afin qu'un enfant, quelque part à Gaza, fixant le paradis dans les yeux, dans l'attente de son père, partit subitement, sans avoir fait d'adieu, à personne, pas même à sa chair, pas même à son âme, pour qu'un enfant, quelque part à Gaza, puisse voir ce cerf-volant, mon cerf-volant à moi, que vous aurez façonné, qui volera là-haut, bien haut, et que l'enfant puisse un instant penser qu'il s'agit là d'un ange revenu lui apporter de l'amour. S'il était écrit que je dois mourir, alors que ma mort apporte l'espoir, que ma mort devienne une histoire. Il voudrait que l'on t'oublie,
Gaza, Gaza,
que ton nom soit interdit, toi l'enfant de Palestine,
Gaza, Gaza,
qui se relève et qui s'obstine,
Gaza, Gaza,
de tout ton cœur, de tout ton être,
Gaza, Gaza,
à ne jamais disparaître,
Gaza, Gaza,
de cette terre qui t'a vu naître,
Gaza, Gaza,
de ce pays, de tes ancêtres,
Gaza, Gaza.
Aujourd'hui mon cœur est lourd,
Gaza,
Aujourd'hui le monde est sourd.
Gaza, Gaza.
Et laisse faire les actes infâmes.
Gaza, Gaza.
Enfant qu'on tue ou qu'on affame.
Gaza, Gaza.
Qui fait semblant de ne pas voir.
Gaza, Gaza.
Qui feint de ne pas savoir.
Gaza, Gaza.
A perdu son humanité.
Gaza, Gaza.
Son honneur et sa dignité. Tu te relèveras, c'est sûr.
Gaza, Gaza.
Tu survivras à tes blessures.
Gaza, Gaza.
Et tu verras, oh, dans ton ciel.
Gaza, Gaza.
Au bout d'une longue ficelle.
Gaza, Gaza.
Comme un ange qui flotte au vent.
Gaza, Gaza.
Une toile, un cerf-volant.
Gaza, Gaza.
Inscrit dessus en toutes lettres.
Gaza, Gaza.
Les derniers mots de ton poète.
Gaza, Gaza.
S'il est écrit que je dois mourir,
il vous appartiendra de vivre.
Il vous appartiendra de vivre.
Que ma mort apporte l'espoir. Que ma mort apporte l'espoir.
Voilà, c'était donc les paroles du poète Refaat Alarrir, mises en musique par HK. HK et ses fameux saltimbanques. Et donc HK sera place Léon Blum ce vendredi 4 octobre à partir de 19h30. Pour un concert dans le cadre de l'arrivée du Tour Alternativa 2024 à Marseille. Dans le texte de ce poète, on entend souvent, très souvent, le mot enfant, parce qu'évidemment, les guerres en général, et celles qui sévissent sur la Palestine depuis des décennies, touchent en particulier les femmes et les enfants. Et concernant les enfants de Palestine, il y en a un qui est extrêmement célèbre. C'est un dessin, en fait. C'est un dessin qui s'appelle Andala. Andala, la fameuse silhouette qui a été créée par le caricaturiste palestinien Najal Ali en 1969. Najal Ali est né en 1937 en Palestine et il est mort assassiné en 1987 en Grande-Bretagne. À la suite de la Nakba et de l'exode palestinien de 1948, Najal et sa famille ont été réfugiés dans un camp libanais. Et donc cette petite silhouette d'enfant, Andala, en fait, c'est un enfant qu'on voit de dos. Bon, on devine que c'est un enfant parce qu'il n'est pas très grand. On ne sait pas trop quel âge parce qu'il est pieds nus, donc on ne connaît pas la pointure de ses chaussures. Et puis, il a les mains dans le dos parce qu'Andala, il ne veut pas ni se battre ni mendier. Et en fait, on ne verra son visage que la Palestine, que quand la Palestine sera libre. Autant dire qu'on n'a pas encore vu son visage. En tout cas, c'est devenu un symbole de la résistance en Palestine et puis, en fait, un symbole des résistances dans tout le Moyen-Orient. Et dans son poème, donc, Refaat Alarrir évoque des toiles de cerf-volant pour créer peut-être de quoi s'envoler, de quoi rêver. En tant que marin, ce sont plutôt les voiles des bateaux qui nous portent. On a dans la région un magnifique peintre pour la paix qui s'appelle Thierry Chauvelot, qui est installé au Rove et qui a dessiné il y a quelques années, quand à la santé existait encore au quai de la Lave, la silhouette d'Andala sur le tourmentin de mon voilier qui s'appelle le gladiateur de la paix. Comme chaque année, depuis le blocus illégal et inhumain de la bande de Gaza par Israël en 2007, toutes sortes de navires essayent de constituer chaque année une flottille pour Gaza. Bon, la plupart du temps, avant même qu'elles arrivent dans les eaux territoriales d'Israël, quand elles sont encore dans les eaux internationales, ces flottilles se font raisonner, les bateaux confisqués, les équipages emprisonnés en général. Bref, en tout cas, en cette année 2024, on a pu recevoir à Martigues, fin juillet, un vieux chalutier norvégien, fabriqué en 1968, rebaptisé Andala pour cette occasion, et qui donc était parti là, de Norvège à la fin du printemps et a parcouru différents ports en Norvège, en Suède, en Écosse, en Angleterre, sur les côtes bretonnes, au Portugal, en Espagne. Et donc, quand nous l'avons accueilli à Martigues, ce fut un grand moment. Comme c'est un ancien chalutier qui a des mâts mais qui ne porte pas de voile, j'ai prêté à l'équipage magnifique la petite voile dans laquelle est dessinée Andala, donc, ainsi qu'une magnifique expo de photos, des photos des anciens pêcheurs de Gaza que Sarah Katz, qui vivait là-bas dans les années 2010, a pu photographier, a pu filmer. En fait, elle était embarquée à bord des derniers chalutiers qui ont été désingués par les gardes-côtes israéliens. Bon, en tout cas, concernant la flottille pour Gaza 2024, Le chalutier Andala est parti de Martigues, cap sur la Corse, où il a été très bien accueilli au Portino Rossi d'Ajaccio par les amis de Corsica Palestina. Et puis il a continué sa route jusqu'à Malte et malheureusement il est tombé en panne de moteur. Et donc pour l'instant il est encore en réparation et de toute façon cette fois-là, l'équipage composé d'Irlandaises, de Norvégiens bien sûr, de Palestiniens, certains qui vivent en Nouvelle-Zélande, d'autres États-Unis, etc., n'étaient pas vraiment sûrs d'avoir l'audace, entre guillemets, enfin, d'aller se frotter aux gardes-côtes israéliens pour s'ajouter à la liste des martyrs. Et puis il y avait d'autres navires, des cargos cette fois, chargés d'aide humanitaire, plus de 5000 tonnes, qui étaient partis pour Gaza, et puis finalement ils se sont retrouvés là-bas à Istanbul. Mais jusqu'à présent, il leur a été refusé le droit de quitter le port d'Istanbul pour aller apporter donc, du matériel sanitaire et humanitaire à Gaza. Donc de ce qui est sûr, c'est que ces fameuses flottilles pour Gaza, en sillonnant tout un tas de ports, rencontrent un nombre énorme de gens et puis suscitent des énergies fantastiques pour, même si c'est à distance, soutenir autant que possible donc, les amis palestiniens et surtout Gazaouis en ce moment qui sont dans une situation terrible. Alors, concernant donc, la Palestine en général, on parle sans arrêt de ces terres, de ces territoires, de la Terre Sainte, des colonies, etc. Enfin bref, puisque... Sur notre planète vivent beaucoup de gens qui sont des terriens. On parle sans arrêt donc de la Palestine en utilisant le mot terre. Et malheureusement, on ne parle pas assez du mot mère, qui est quand même fondamental. Hein, puisqu'il y a longtemps, quand tout allait bien, eh bien les pêcheurs qui partaient de Gaza et ramenaient quasiment des pêches miraculeuses. Et leurs poissons, je dirais, alimentaient eh bien, tous les gens de cette côte, hein, qu'ils soient israéliens, qu'ils soient palestiniens, syriens, etc. Voilà. Mais en fait, il y a très longtemps, des limites maritimes ont été imposées aux pêcheurs de Gaza. À une époque, ils pouvaient aller pêcher jusqu'à 25 000 des côtes. Mais avant même qu'ils arrivent à une dizaine de mille, boum, ils étaient arraisonnés par les gardes-côtes israéliens. Et puis ensuite, ça s'est réduit à 6 000. Enfin, bref. Et donc, il me semble qu'on devrait beaucoup plus souvent utiliser le mot « méritoire », l'équivalent du mot « territoire », mais pour la mer, parce que malheureusement, la colonisation qui sévit sur les terres sévit peut-être même encore plus fort d'ailleurs sur les mers. Cette mer qui est absolument fondamentale pour ce qui nous concerne, puisqu'on est tous autour de la mer Méditerranée, elle est essentielle, elle est tellement pleine de ressources extraordinaires. Et malheureusement, elle est bousillée, en particulier de l'autre côté, là-bas, du côté oriental de la Méditerranée, à peu près partout. C'est carrément dramatique. Et pourtant, nous venons tous de la mer. Et quand on dit, paraît-il, qu'on redeviendra poussière et qu'on retournera à la poussière, non. En fait, on reviendra à la mer, d'où tout est parti et où tout reviendra. Et donc cette mer, elle est fondamentale. Elle est fondamentale en particulier pour la mémoire. Parce que tout ce qui se passe avec ces guerres en général, et les guerres génocidaires en particulier, comme celle qui est en train de mener depuis des décennies en fait, Israël, et puis les États qui y sont complices, ça consiste à vouloir effacer non seulement les êtres humains qui vivent quelque part, mais aussi leur création, leur production, que ce soit leur maison, que ce soit leurs œuvres d'art, et puis carrément aussi de les supprimer de la mémoire. Voilà. Alors je voudrais à cette occasion qu'on entende une chanson que j'adore, c'est « La mémoire et la mer » qui a été évidemment écrite et chantée par Léo Ferré. Mais là, on va l'entendre par une merveilleuse chanteuse brésilienne installée à Paris qui s'appelle Monica Passos. Donc Monica Passos, « La mémoire et la mer ». Love.
de ma petite sœur, de mon enfance, de mon cire. Un bateau, ça dépend comment la rime au port de justesse. Il pleure de mon firmament des années-lumière et j'en laisse. Je suis le fantôme José, celui qui vient les soirs de frime te lancer la brume, un baiser, te ramasser dans ses rimes. Comme le trémail de juillet nuisait le loup solitaire, c'est lui que je voyais briller doigts de sable de la terre. Rappelle-toi ce chien de mer qui nous libérions sur parole et qui gueule dans le désert des grouillements de nécropole. Je suis sûre que la vie est là avec ses poumons de flanelle. Quand il pleure de ces temps-là, les froids tout gris qui nous appellent. Je me souviens des soirs là-bas et des sprints gagnés sur l'écume. Cette bave des chevaux raoura des rocs qui s'épossument au l'ange de plaisir perdu, aux rumeurs d'une autre habitude. Mes désirs des lors ne sont plus qu'un chagrin de ma solitude. Diable des soirs conquis avec ses pâleurs de rescousse, les squales de paradis dans les milieux mouillés de mousse. Reviens fille verte des fjords, reviens violon de violonnade dans les ports fanfare les corps pour le retour de camarades au parfum rare des salons dans les poivres feux de gerçure. Quand j'allège en maîtrisant mon âme au creux de ta blessure, dans les désordres de ton cul poissé dans des draps ton beau fil, je voyais un vitrail. Coquillages figurants sous les sunlight assez liquides, joue de la castagnette tant qu'on dirait l'Espagnol livide. Dieu de granit, ayez pitié de leur vocation de parure quand le couteau vient s'immiscer dans leur castagnette figure. Et je voyais ce compressant quand en pressant l'entrevoyure entre les persiennes du sang et que les globules figurent une mathématique bleue sur cette mer jamais étale d'où me remonte peu à peu cette mémoire des étoiles.
Voilà, donc c'était la magnifique voix de Monica Passos, brésilienne installée en France depuis longtemps et qui interprétait la mémoire et la mer. La mémoire et la mer de Léo Ferré. Alors quand on m'a proposé d'animer cette émission, Une heure en Palestine, avec bien sûr sur le thème de la mer, j'ai continué de chercher dans les littératures, dans différents textes, des textes donc sur la Palestine et la mer. Mais comme je le disais précédemment, les mots terre, territoire, colonie territoriale, frontières terrestres, contrôle aux différents terrains, etc., sont omniprésents. Mais malheureusement, puisque ce sont des terriens pour la plupart qui les écrivent, eh bien, les mots mer, méritoire, etc. sont relativement absents. Et pourtant, s'il y a quelque chose qui permet, je dirais, de régénérer des énergies fantastiques, qui permet donc de, comme le disait la chanson de Léo Ferré, des choses extraordinaires, des choses extraterrestres, donc finalement, et pourtant parfaitement inclus dans notre planète, qu'on aurait dû appeler la planète mer, mais enfin, bon, c'est un autre sujet. Eh bien, je me suis adressé à mon ami Chris et il m'a tout de suite sorti un très joli poème. Un poème qui s'appelle « Déferlement », dans lequel il y a le mot « océan » et qui a donc été écrit par un magnifique poète. Mais le mieux, c'est donc de l'entendre par la voix de Chris.
Voici un poème de Youssouf Abdelaziz. Donc, c'est un Palestinien né en 1956 en Cisjordanie. Bon, il a vécu la Nakba, tout ça. Il est allé travailler en Jordanie, enfin à l'UNRWA, etc. Bon, il est à Amman, je crois, encore maintenant, s'il n'est pas mort. Mais voici le poème. Une nuit, l'océan est entré chez moi. C'était un vieillard respirant comme un train ancien. J'ai pensé le faire asseoir près de la fenêtre pour qu'il récupère et que je lise en son honneur des poèmes. Mais il est resté debout. Haletant, il m'a offert des poissons, des coquillages et s'en est allé. Au matin, j'ai inspecté ma maison, plus de toit. de portes, de fenêtres, plus de murs, tout était cassé et trempé. Même moi, oh mon Dieu, je m'étais cassé comme un vase. Je n'avais plus de lèvres pour parler, plus de bras pour entourer la taille d'une femme. De mon corps, il ne restait qu'une fleur saillante, mon cœur au milieu des décombres. Voilà.
Voilà, merci beaucoup, mon ami, mon frère Chris, pour ce poème, donc Déferlement, où on voit que, bon, bien sûr, l'océan, la mer peut être extrêmement nourricière, porteuse de plein d'espoir, mais peut être aussi parfois très terrible, tempétueuse. Mais enfin, bon, là, on a compris qu'en fait, l'océan qui déferlait, c'était surtout les bombes, les mines qui explosent, etc. En tout cas, pour ma part, mon voilier s'appelant le gladiateur de la paix, j'essaie autant que possible de naviguer de façon paisible. Et donc, pas plus tard que récemment, je suis encore donc retourné en Corse, récupérer donc auprès de nos amis de Corsica Palestine, cette petite voile Andala, sur laquelle est dessinée donc Andala, et puis également donc cette fameuse exposition de photos réalisée par Sarah Katz lorsqu'elle vivait à Gaza dans les années 2010. Alors je dois préciser ici que Sarah Katz est juive et qu'elle fait partie de cette très très belle association qui s'appelle l'Union juive française pour la paix. Et cette union donc regroupe des juifs qui depuis le tout début de la création de l'État d'Israël s'est insurgée de façon très forte contre cette façon de coloniser les territoires d'autrui d'une part, contre ces façons de créer un État sur la base de discrimination raciale, etc. Et donc, dans les années 2010, Sarah Katz a pu embarquer sur certains chalutiers qui avaient encore le droit de pêcher au départ du petit port de Gaza. Mais encore une fois, peut-être qu'à cette époque-là, ils avaient le droit d'aller jusqu'à 10 000, mais dès qu'ils arrivaient à moins de 5 000, boum, 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 les gardes-côtes israéliens les aspergeaient avec des lances à eau, etc. Malgré tout, donc Sarah a pu filmer, photographier, d'abord les chalutiers, et puis ensuite, car il n'y avait plus le chalutier, ben, elle a pu filmer, je dirais, les barquettes sur lesquelles continuer de pêcher ce qui avait encore pu sauvegarder, je dirais, un peu de matériel. Et parmi ces pêcheurs, il y a une femme, une jeune femme, qui en fait, quand elle était toute jeune, allait pêcher avec son père. Et puis, bon, je ne sais pas pour quelle raison, ni comment, ni où, son père est mort. Et cette jeune fille donc a décidé de devenir elle-même patron pêcheur en quelque sorte. Alors évidemment au début ça a été absolument pas, je dirais, bien perçu par ses collègues pêcheurs d'une part et puis par tous ceux qui d'habitude croient que sur les bateaux il n'y a que des hommes qui vont à la mer, hein, que ce soit pour faire de la plaisance, sur les bateaux militaires, etc. C'est très très compliqué là encore même aujourd'hui la place des femmes. Et donc cette jeune fille, elle y est allée, et au début ça a été très très dur, et puis finalement, elle a obtenu effectivement la reconnaissance des IEM, mais par son courage, par son efficacité, elle est devenue patron pêcheur. Voilà, et donc ce n'est qu'au printemps de cette année, au printemps 2004, que les photos qu'avait prises Sarah Kalt, les petites vidéos, ont pu être montées. Et ça a donné lieu à un merveilleux film, un merveilleux documentaire finalement, qui s'appelle « Aimer la mer à Gaza ». Et ce documentaire, on a pu en particulier le voir lorsque le chalutier Andala de la flottille pour Gaza a fait escale à Martigues fin juillet. On a pu se réunir avec beaucoup de gens dans un très beau cinéma à Martigues, un cinéma bien nommé hein, puisqu'il s'appelle « La Cascade », donc encore un cinéma qui parle de l'eau. Et donc, avec tout le travail qu'avait fait Sarah, ce film a été monté et il est absolument extraordinaire. Donc, on voit ces fameux pêcheurs, je dirais, exterminés dans les années 2010. On voit cette femme qui continue malgré tout de pêcher sur des barquettes à l'époque. Et puis, malheureusement, ce film ayant donc été monté au printemps 2024, on voit que, bien sûr, que c'est absolument dramatique, terrible et abominable et inacceptable ce qui se passe pour les terriens à Gaza, mais aussi en Cisjordanie. Mais alors concernant les pêcheurs, qui avaient donc plus de bateaux ni de ports, eux, je dirais que depuis un an, ils errent de dune en dune, avec encore moins de ressources vitales, c'est-à-dire moins d'eau finalement, que ceux qui sont un peu plus dans les terres. Et voilà. Et alors donc ce film, Aimer la mer à Gaza, on peut le trouver, il est bien évidemment disponible gratuitement sur YouTube. Et Sarah a réussi à le faire visionner en première au festival Pêcheurs du Monde, un festival qui s'est déroulé à Lorient, c'était au printemps dernier. Et donc ce film a été honoré du prix Chandrika Sharma. Et il est sélectionné dans deux festivals qui vont se dérouler en novembre, l'un en Espagne, en Galice, qui s'appelle Mares da Fin do Mundo, et un festival international du film documentaire qui, lui, va se dérouler à Bruxelles. Et ce festival s'appelle Into the Blue. Voilà, donc je recommande à tout le monde, à tous et toutes, de pouvoir voir ce film, même si vous n'allez pas donc, au festival en Galice, ni à celui Into the Blue à Bruxelles. Il est disponible sur YouTube. Il s'appelle Aimer la mer à Gaza. Et donc, autant que faire se peut, on trimballe ici et là, chaque fois que c'est possible, la fameuse expo des photos de Sarah Katz, qui sont un marqueur de ce qui s'est passé dans les années 2010, dans les années 2020, et depuis le début de cette année 2024, concernant donc les gens qui pouvaient encore, il y a quelques années, il y a quelques mois, pêcher au large de Gaza. Alors bon, concernant donc ce que produisent les Palestiniens depuis des millénaires, il y a donc des musiques fantastiques, et il y a des broderies très fines, des poèmes et des chants profonds. Il y a bien sûr les créations artistiques, issues des bois de taille des oliviers, avec lesquels des sculpteurs créent une grande variété de statuettes, y compris bien sûr des santons, des crèches de Bethléem, des santons très durables d'ailleurs, hein, puisqu'ils sont faits donc en bois d'olivier. Les Palestiniens de Cisjordanie produisent également de la verrerie d'art, des boules, des gouttes, des cloches, que des artisans créent en réutilisant la technique du verre soufflé dans des grosses boules servaient autrefois de flotteurs au filet des pêcheurs, sans doute aussi donc aux anciens pêcheurs de Gaza. Il y a évidemment tout ce qui est issu de l'agriculture, alors donc là on revient à la terre, et en particulier le fameux zaatar. J'ai toujours pas le bon accent, mais ce qui est sûr, c'est que le zaatar, donc, c'est un mélange d'origan d'Orient, de graines de sésame grillées et de sumac. Et ce mélange exauce absolument tous les plats qu'on peut imaginer. Il les rend délicieux, même si au départ, ils ne sont pas très goûteux. Alors d'où le nom « route du zaatar » que j'ai donné à mon projet de transport de produits méditerranéens. Les Palestiniens de Cisjordanie produisent aussi les fameuses dattes medjoul, les authentiques. Le blé vert, comme on dit fric ou friquet, la tahini, c'est-à-dire la pâte de sésame, et aussi de la bière et du vin. Et alors, c'est effarant de constater que la plupart des Occidentaux actuels sont très surpris d'apprendre que de la bière ou du vin proviennent de Palestine. La plupart d'entre eux, en fait, sont formatés pour tout ce que leur imposent nos médias, et ils pensent qu'il n'y a en Palestine que des abominables terroristes barbus qui coupent la gorge à celles et ceux qui apprécient la bière ou le vin. Mais que nenni ! Il y a aussi en Palestine des gens très nombreux qui savent les bienfaits de ces breuvages lorsqu'ils sont produits avec amour et consommés avec modération, ou au moins avec raison. Et je repense souvent, parmi les magnifiques rencontres que j'ai pu faire grâce à la route du Zaatar, lors de la toute première escale à Porquerolles, la rencontre donc avec un Palestinien, Sami Abourabi, qui fut pendant des années le maître de chai du domaine de Lille, c'est-à-dire du principal domaine viticole de Porquerolles, malheureusement racheté dès cette époque par une filiale de l'ogre LVMH. Sami Abourabi, pendant ses années palestiniennes, a côtoyé le grand poète Mahmoud Darwish, le journaliste dessinateur d'Andala, dont on parlait tout à l'heure, Nadia Alali, etc., etc. Et Sami a participé à un nombre incroyable d'émissions de cuisine. Et j'ai entendu beaucoup de gens parler de vin, mais la façon dont ce Palestinien parle du vin est extraordinaire. En tout cas, concernant les cultures palestiniennes, les cultures au pluriel, qu'elles soient donc agricoles, artistiques, sociales ou politiques, je recommande chaudement le très beau livre collectif qui s'intitule « Ce que la Palestine apporte au monde », qui est issu de la très belle exposition qui avait été installée à l'Institut du monde arabe à Paris en 2023 et qui a été éditée aux éditions du Seuil. Bon, malheureusement, cette exposition a été interrompue, on va dire quoi, par une décision peut-être pas très courageuse de l'actuel président de l'Institut du monde arabe, qui s'appelle encore Jack Lang. En tout cas, puisque même quand on le consomme avec modération, avec les bienfaits qu'il apporte, on peut dire voilà, que parfois l'alcool apporte une certaine ivresse, Ben, je voudrais qu'on écoute la nouvelle chanson Palestina du groupe Labès, qui vient de sortir dans son dernier album.
Me quedo en Palestina, me quedo en Palestina, me quedo en Palestina, me quedo.
Violaste una ley y todo lo saben, porque este país es el mío de verdad. Los árboles de aceituna, nuestra única fortuna, es de nuestra familia, primo, de verdad.
En Palestina me quedo, en Palestina me quedo, en Palestina me quedo, en Palestina me quedo.
C'était donc le nouveau titre Palestina du groupe Labès, qui vient donc de sortir son nouvel album. On le trouve déjà bien sûr sur tous les réseaux. Palestina du groupe Labès, merci à eux. Alors on en était donc au fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'Occidentaux sont surpris quand on leur dit que de la bière et du vin sont produits par la Palestine. Et alors c'est dommage qu'on enseigne aussi mal l'histoire dans notre pays, qu'elle soit contemporaine ou antique. Parce qu'il se trouve que, eh bien, ça fait des millénaires en fait que des vins sont apportés sur la rive nord de la Méditerranée par des Palestiniens. Et il se trouve que donc j'étais à naviguer tout récemment, alors non pas à bord de mon gladiateur de la paix, mais à bord du catch associatif Goélène, qui est basé au Frioul, et que nous avons emmené le 4 septembre, juste avant les gros orages qui ont inondé Marseille, jusqu'à Port Gardian, le port donc des Saintes-Maries de la Mer. Et là-bas, le bateau sert, disons, de résidence à une association de plongeurs archéologues qui sont des cadors. En fait, ils plongent, certains d'entre eux, depuis des années avec, entre autres, Luc Long. Luc Long qui a découvert, il n'y a pas si longtemps que ça, un buste de Jules César dans le Rhône, là devant Arles. Et donc, au Sainte-Marie-de-la-Mer, il y a un assez nouveau petit musée, petit, mais un musée d'archéologie qui est vraiment très agréable à regarder et moi qui m'a beaucoup plu. Parce que ben, dans ce musée, ben, j'ai vu écrit le mot Palestine. Alors que, sauf erreur de ma part, ce n'est pas le cas dans notre fameux MUCEM, là, le magnifique musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille, où l'exposition permanente s'appelle le Grand Mezzé, et qui est censé donc remettre en avant ces fameux régimes méditerranéens, au pluriel. Bon, le plus connu d'entre eux, c'est le régime crétois. Enfin bon, je ne crois pas avoir vu le mot Palestine, ni le mot Zaatar, dans l'exposition du Grand Mezzé au MUCEM. Alors que, donc dans ce petit musée d'archéologie sous-marine des Saintes-Maries-de-la-Mer, eh bien il est écrit noir sur blanc qu'il y a des millénaires, En fait, sachant que les Palestiniens étaient très très forts pour produire des amphores, eh bien du vin issu de Palestine traversait la mer et arrivait à Marseille. Et alors là, ben, il faut que je revoie ce que je raconte depuis des années, puisque depuis des années, comme pas mal de gens qui s'intéressent un peu à l'histoire, mais enfin je ne suis pas historien, ben, je raconte que ce sont les Phocéens, les fameux Phocéens, c'est-à-dire les Grecs, issus de Phocé, qui avec leurs marins, et en particulier le capitaine Proptis, a amené le vin aux Celto-Ligures qui à l'époque habitaient au port du Frioul. Et alors là, je voulais lire un tout petit extrait d'un nouveau livre qui vient de sortir, écrit par Nasser Soumi, qui s'appelle donc « Le vin et la Palestine, une histoire millénaire » et qui a été édité là en 2024 aux éditions Almanach. Et donc, il est vraiment génial ce livre. Mais bon, à la page 18, donc, attendez, il faut que je retrouve la page. Voilà, ça y est, la page avait tourné. Bon, pourtant, il n'y a pas de vent au studio Radio Galère. Mais en tout cas, donc, à la page 27 du livre de Nasser Soumi, « Le vin et la Palestine », voici ce qui est écrit. « Les historiens européens ont souvent privilégié l'origine grecque au détriment d'origine phénicienne, c'est-à-dire au détriment d'origine des gens de Palestine. Et Marseille en est l'exemple. La tradition littéraire unanime attribue la fondation de Marseille vers 600 ans avant Jésus-Christ à des Grecs donc venus de Phocée, d'où le fait qu'on appelle les Marseillais des Phocéens. Et les premières découvertes effectuées dans la ville ne semblaient pas contredire cette tradition. Une théorie selon laquelle Marseille aurait abrité une importante communauté, ou même que les Phéniciens s'y seraient installés avant les Grecs, se répandit à partir du milieu du XIXe siècle, c'est-à-dire récemment. Elle avait pour origine la mise au jour, dans le quartier de la Major, d'une inscription phénicienne connue aujourd'hui sous le nom de Tarif de Carthage. Le règlement religieux qu'elle transcrit parut apporter la preuve que des cultes phéniciens étaient pratiqués à Marseille. La création de la rue publique, de la rue de la République, a amené la découverte d'objets antiques les plus importants au point de vue de l'histoire de Marseille, notamment une inscription phénicienne où les savants lisent le règlement des prêtres de Baal et 47 stèles qui reposaient depuis de 2000 ans à 4 mètres de profondeur dans la terre. Enfin bref, ce livre parle surtout du vin et donc, eh bien voilà, il faut admettre que bien avant les Phocéens, du vin de Palestine est arrivé sur nos côtes. Et donc, au Sainte-Marie-de-la-Mer, eh bien, on peut voir vraiment des traces merveilleuses de ces faits-là. Et donc, je répète que c'est parce que les Palestiniens étaient très forts pour construire des amphores qui permettaient parfois, bien sûr, de transporter les marchandises à dos de chameau, mais aussi, donc, dans des bateaux. Allô ?
Allô, bonjour.
Ah ben bonjour Djemma, on est très heureux d'entendre la voix donc, de Jean-Marie Dansette, que beaucoup connaissent sous le nom de Djemma le Philistin. Alors nous, on navigue souvent en bateau, mais lui, il navigue souvent en camion. Alors tu es où Djemma en ce moment ?
J'arrive à Aubenas, en Ardèche, la capitale de l'Ardèche.
Voilà, donc je sais qu'à Aubenas, tu vas être avec Sabri Giroux, hein, donc ce fameux Sabri qui était archéologue grenoblois et puis qui est devenu un habitant de Jérusalem-Est. Et là-bas, il a créé une très belle agence de voyage d'Iwan. Et il est le coordonnateur d'un très beau livre collectif qui est sorti récemment et qui s'appelle donc 50 personnalités palestiniennes de l'Antiquité à nos jours. C'est bien ça, Djemma ?
Alors, d'abord, Sabri Giroux, il se définit comme palestinien d'origine française.
Tout à fait.
D'accord ? Voilà. Et le titre de son livre, qu'il a mis 8 ans à préparer, c'est la Palestine en 50 portraits depuis la préhistoire, voilà.
Ok, merci Djemma. Voilà. Bon, en fait, si on te demande de participer à cette émission, tu le sais, il est question donc de la Palestine et de la mer. Alors bien sûr, on a parlé des flottilles pour Gaza, on a parlé du magnifique travail fait par Sarah Kals qui montre le très très tragique sort des pêcheurs de Gaza. Mais cette route du Zaatar, elle existe avant tout parce que tu existes, parce que France Import Palestine existe, hein, c'est-à-dire fipsouk.fr, on en a beaucoup parlé. Et donc, beaucoup de gens se demandent, bien évidemment, depuis le 7 octobre, comment ça se passe là-bas, comment ça se passe pour les producteurs que tu connais en Cisjordanie, quelles sont les conditions de vie pour produire, est-ce que tu as des nouvelles fraîches, dis-nous, à ce sujet ?
Alors, je prends des informations d'une façon générale par sur un média sur Telegram qui s'appelle Nouvelles de Palestine, que je recommande parce que là on a des informations qui viennent du terrain. Et ensuite, évidemment, j'ai des contacts et j'ai des relations et je suis la situation. Par exemple, là, on attend un conteneur de marchandises, c'est-à-dire composé de céramique d'Hébron, d'Al-Khalil. Il y a 4 palettes et puis 6 palettes de vin et de bière de Taïbé. Alors,
attends, ça tombe bien, Gemma, parce que parmi tout ce que j'ai cité, on a surtout parlé des pêcheurs et du poisson, mais parmi les productions donc artisanales et agricoles que produisent depuis très 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 longtemps les Cisjordaniens, donc j'ai beaucoup parlé donc des fameuses céramiques dont les motifs ont été introduits dans l'Antiquité par des Arméniens et que donc des générations de la famille Temimi à Hébron reproduisent. Et puis on en était justement au sujet de la bière et du vin, hein, c'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui c'est hallucinant de voir que quand on met sur un stand de la bière de Palestine ou du vin de Palestine, la plupart des Occidentaux sont effarés. Bon, bref, on a expliqué pourquoi. Alors je crois que tu nous as prononcé ce mot un peu magique, le mot Taïbé. Donc Taïbé, si je ne me trompe pas, ça veut dire délicieux, et c'est aussi un bled là à côté de Ramallah qui a des origines un peu chrétiennes coptes, et je crois donc que c'est de là finalement que viennent à la fois la bière, mais aussi le vin de Palestine, c'est bien ça?
Ouais, alors attends, d'abord je suis obligé de te rendre, Cisjordanien ça n'existe pas, hein. Il n'y a que des Palestiniens là-bas. Hein.
Ok, ok.
Faut pas inventer ça. Ensuite, Taïbé, oui, c'est un village chrétien, mais c'est des catholiques, hein. C'est pas copte, je sais pas, non. Non, c'est des chrétiens catholiques, quoi, hein, qui vont à la messe dimanche, voilà. Là-bas, c'est une famille qui a entrepris de produire de la bière il y a une trentaine d'années. Et puis, Nadim Khouri, le père, quoi, celui qui a pris l'initiative, donc il a 2 enfants. Madis, sa fille, elle travaille justement sur la bière depuis une trentaine d'années. Et son fils, Kanaan, a suivi avec des œnologues réputés une formation sur le vin. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de vignobles, hein, évidemment, en Palestine, en particulier dans la région d'Hébron, d'El-Khalil, mais aussi autour de Ramallah. Qui était Ramallah, qui était un village chrétien à l'origine. Hein. Et donc, ils se sont mis à s'intéresser à la production du vin. Ils travaillaient avec des viticulteurs, des vignobles. Et ils travaillent avec plusieurs cépages de vin rouge, de vin blanc. Alors, des cépages autochtones, indigènes, comme on dit, et aussi des cépages Cabernet Sauvignon, Syrah, qu'on connaît mieux chez nous.
Ok, voilà. Bon, écoute, je vois que comme moi, tu sais apprécier, mais avec modération, bien sûr, la bière et le vin. Et donc, concernant le vin de Palestine, bon, j'ai eu, grâce à toi, l'occasion, il y a longtemps, de goûter leur vin rouge. J'avoue que j'avais un petit peu de mal par rapport au fait qu'on sentait beaucoup le bois, mais il a beaucoup évolué depuis, très favorablement. Et j'ai par contre été très agréablement surpris par le vin blanc de Palestine. Alors, comme tu le dis, issu d'un cépage autochtone, encore en l'occurrence, je crois que c'est le cépage Gianni. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces cépages-là, ils savent, eux, je dirais, ils sont adaptés, je dirais, à ce qu'on appelle aujourd'hui le dérèglement, le réchauffement climatique, etc. Voilà, et donc, si j'ai bien compris, tu nous dis que là, prochainement, mais enfin, quand on dit prochainement, les délais sont parfois incertains, un conteneur donc devrait à nouveau traverser la Méditerranée avec en particulier donc des céramiques, de la bière et du vin, c'est bien ça?
Ouais, c'est bien ça, ouais.
Ok. Bon, écoute, c'est une bonne nouvelle. Alors bon, mais quand ces conteneurs traversent la Méditerranée, évidemment, ils arrivent dans le grand port de Marseille, où là, il y a tout un tralala avec la douane. Hein. Je sais que souvent, il y a eu des soucis pour des histoires de normes, que ce soit par rapport...
Attends, Philippe, je te coupe, parce qu'il y a déjà le problème, parce que ce conteneur, on aurait déjà dû le recevoir.
Et oui.
Donc c'est intéressant, je pense que ça intéresse les
bien
auditeurs
sûr.
De savoir qu'est-ce qui se passe en Palestine pour justement composer ce conteneur.
Bien sûr.
Parce que, voilà. En fait, on s'est arrangé pour que les 4 palettes de céramique d'Al-Khalil, elles aillent par camion jusqu'à Taïbé. Et c'est là qu'est le conteneur qui sera rempli avec les 6 palettes de vin et de bière. D'accord?
D'accord.
Alors, la difficulté qu'ils ont, si c'est pour c'est ça le sujet, il me semblait, c'était pour savoir qu'est-ce qui se passe pour eux,
oui.
Là-bas, les Palestiniens. Alors, c'est la circulation. Et oui. La circulation, parce que bon, les Israéliens, l'occupant, cassent les routes avec des bulldozers, et puis il y a des interventions de l'armée israélienne, enfin bref. Et donc, ils sont les véhicules, hein, tous les véhicules, que ce soit les voitures, les camions, sont obligés de prendre des petites routes détournées, et c'est très compliqué, en fait, pour joindre une ville, un village... dans la région, quoi. Une fois que les quatre palettes sont arrivées à Taïbé, il faut aller jusqu'au port de Haïfa.
Bon, oui.
Évidemment, le camion qui transporte le conteneur va sortir par un point de sortie de marchandises à Tarkoumia, s'appelle Tarkoumia, et qui va aller rejoindre Haïfa.
Hein, oui.
Le problème maintenant, c'est que Haïfa est bombardée là actuellement. Hein,
ah oui.
Il y a, voilà. Donc bon, ça doit aussi occasionner des problèmes, de retard. Voilà, c'est un peu ce qui se passe sur place, hein, okay. Pour approvisionner. Mais il faut savoir que depuis le 7 octobre, on a quand même reçu deux containers, hein, de d'huile d'olive, de zaatar, enfin tous les produits que tu connais, que tu transportes, hein, t'en es l'ambassadeur pour sur les eaux, toi, sur la Méditerranée.
Un petit peu.
Voilà. Hein, et donc ça, on a tous les produits en stock et ça marche bien. La boutique de Marseille, justement, je pense que tu en as parlé, ou Place Labadier, donc on a cette boutique qui est bien achalandée dans tous les produits, hein, que ce soit le vin, la bière, voilà. Quoi,
ok.
Je voulais ajouter que bon, là, on a pour la première fois, on est souvent sollicité par d'autres pays européens, puisque on est les seuls à importer de la bière et du vin, et on a été sollicité par une amie, Sarah, qui est à Stockholm en Suède,
ah.
Et qui a une entreprise et qui commercialise les vins de Bourgogne, ah. En Suède.
Très bien.
Voilà. Et donc, elle nous a contactés et donc nous lui avons préparé une palette qui va partir la semaine prochaine de bière et de vin pour Stockholm. Voilà. Ça, bon. c'est nouveau chez nous, ça.
Bon,
voilà.
Mais écoute, je vois que malgré tout, la petite entreprise Flipsouk ne se porte pas si mal que ça. Et puis, bien évidemment, il y a l'association Le Philistin, on en a parlé aussi, hein, qui fait tout ce qu'elle peut pour faire connaître, faire apprécier, faire aimer toutes les cultures de Palestine. Bon, écoute, Diamant, te remercie beaucoup. Salut bien, donc, Sabri Géroux, le Palestinien d'origine française, qui est devenu à la fois directeur d'agence de voyage alternative et puis qui a surtout sorti ce fameux livre pour lequel il fait la promotion. Donc voilà, n'abusez ni de la bière ni du vin. Portez-vous bien et à très bientôt, Gemma. Merci à toi.
Ok, merci Philippe. À bientôt.
Ciao.
Bye. Au revoir.
Voilà, ben je crois qu'on va, bientôt arriver à la fin de cette émission Une heure en Palestine qui était... Et principalement sur le thème de la mer. Donc on a entendu donc Jean-Marie Dansette, hein, le responsable de la petite entreprise Flipsouk, qui nous décrit les difficultés actuelles de transport routier des fameux produits créés en Palestine. Bon, espérons finalement que les conteneurs arriveront au port d'Haïfa. Et en général, une fois qu'on a franchi tous les affres terrestres, normalement en mer, ça se passe mieux. Voilà. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, donc, on est le mercredi 2 octobre, l'émission Une heure en Palestine passe en direct. Elle sera bientôt dans les podcasts de la station Radio Galère. Et alors, concernant quelques annonces imminentes, donc, je répète qu'un stand de la route du Zaatar, avec des produits palestiniens, mais pas que, sera installé donc samedi prochain, là, le 5 octobre, en bas de la Canebière, dans le cadre de l'arrivée du tour Alternativa. Et puis, dimanche 6, à la Cité des Arts de Lorient, aux Égalades. Alors là, cette fois, c'est tout le week-end, samedi 5 et dimanche 6 octobre, là-haut, à la Cité des Arts de Lorient, il y a la fête du ruisseau, hein, puisqu'on a beaucoup parlé d'eau de mer, mais évidemment, ce qui est fondamental encore plus, finalement, c'est l'eau douce, l'eau potable, l'eau qu'on peut boire. Et donc, samedi 5 et dimanche 6 octobre, vous avez la fête du ruisseau aux Égalades, à la Cité des Arts de Lorient, et ça va être très rafraîchissant. Voilà, et vendredi 4, donc on a écouté tout à l'heure HK, hein, qui sera présent place Léon Blum pour chanter à partir de 19h30. Mais à 19h, à la très bonne petite librairie Transit, au 51 boulevard de la Libération, aura lieu la présentation d'un nouveau livre, collectif lui aussi, qui s'appelle « Paroles pour une paix en Palestine ». auquel a contribué entre autres notre ami Marc Mercier. Marc Mercier qui, contrairement à moi, est allé très très souvent en Palestine et qui a été l'un des co-créateurs du festival Instant Vidéo. Donc vendredi 4 à 19h, c'est à la librairie Transit, le livre collectif Parole pour la paix en Palestine. Et samedi 12 octobre à 17h, cette fois, à la librairie Maupetit, au 142 La Canebière, c'est notre ami Mohamed Sabané, un jeune palestinien caricaturiste qui présentera, lui, son livre plutôt, disons, de bande dessinée, qui s'appelle 30 secondes pour Gaza. Les livres de Mohamed sont édités pour l'édition Alif Bata de la superbe italienne Simona. Et alors Mohamed, lui, il dessine à l'encre de Chine. Parce que l'encre de Chine, c'est indélébile, on ne peut pas l'effacer. Et ce que dit Mohamed, c'est que voilà, toutes les photos qu'on peut faire, toutes les images qu'on peut faire, toutes les traces, les vidéos, je pense en particulier à Gaza Stories, qui sont sur les réseaux, ben, tôt ou tard, elles sont censurées, elles sont effacées, elles peuvent disparaître. Alors que ce qui est écrit à l'encre de Chine, ben, ça ne disparaît pas. Voilà, et donc Mohamed Sabané, ben, qui a vu les jeunes caricaturistes comme lui se faire tuer il y a quelques années là-bas en Palestine, qui a passé pas mal de temps sous la torture et enfermé dans des prisons d'Israël, il sera donc à nouveau en tournée en Europe, mais aussi donc à Marseille, pour présenter son dernier livre, 30 secondes pour Gaza. Voilà, en tout cas, je suis très heureux d'avoir fait cette petite émission en Palestine sur le thème de la mer. Alors, j'espère qu'on se retrouvera bientôt, que ce soit sur un marché, avec le trafic, et puis j'espère aussi en mer, tout simplement. Alors bien évidemment, pas en Palestine, parce que c'est très compliqué d'y aller, c'est pas demain qu'on pourrait y aller tranquille. Et du coup, on parlera une autre fois de gens qui voudraient aller en bateau à un endroit qui s'appelle Port Saïd, et qui permettrait de soutenir des Palestiniens parmi tous ceux qui ont exilé. Mais au moins, là, il y a des choses à faire, des choses, des endroits où on peut aller. Voilà, donc à bientôt en mer Méditerranée. Au revoir.
Bintish Shalabi.